Mercredi 25 avril 2018, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Le revoici, le revoilà. Bonjour Jean-Sébastien Laliberté.
Bon mercredi Hélène Denis.
Alors comment ça va dans votre famille? Là, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais votre petite fille va-t-elle mieux?
Pas tant.
Non?
Non.
Ben, elle va s'en sortir.
Ben oui, rien de grave, ce n'est rien de grave. Rassurez-vous, de fièvre.
Et vous êtes resté à ses côtés. Vous êtes vraiment un père merveilleux. Alors, allez-y avec les éphémérides.
Alors, 25 avril, journée mondiale du paludisme. Ces infections qui sont... ces maladies, en fait, qui sont bien sûr véhiculées par les petits moustiques que nous adorons vraiment beaucoup.
Oui,
partout,
ah oui, on
partout
les adore.
À travers la planète, je suis certain qu'on voue le même amour inconditionnel à ces petits insectes qu'ici. Alors, 25 avril 1507, le géographe Martin Waldseemüller nomme le continent l'Amérique en l'honneur du navigateur Amerigo Vespucci.
L'Amérique!
1792, Jacques Pelletier, connaissez-vous ce nom?
Oui, ça me dit quelque chose. L'auteur?
Possiblement. Il y a eu, j'imagine, plus d'un Jacques Pelletier. Celui à laquelle je fais référence, 25 avril 1792, était un vagabond et voleur à la tire. Il subit le premier supplice judiciaire de la guillotine à Paris. Première victime de la guillotine, 1849. Une loi est adoptée sur les dommages lors des rébellions de 1837 et 1838 pour indemniser, entre autres, les propriétaires qui avaient eu des dommages de fait à leur terrain lors des rébellions des Patriotes de 1837 et 1838. Donc, loi est adoptée à Montréal. L'affaire provoque une émeute et l'incendie du Parlement qui feront finalement déplacer la capitale de Montréal. 1901, l'État de New York émet les premières plaques d'immatriculation pour automobiles coûtant 1$ pièce. 25 avril 1950, un accord est conclu entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces pour la construction de la route transcanadienne. 1959, toujours un 25 avril, à l'écluse de Saint-Lambert, le brise-glace d'Iberville est le premier navire à utiliser la nouvelle voie maritime du Saint-Laurent. 1967, à Montréal, l'autoroute d'Équerry est inaugurée. 1971, encore un 25 avril, à Washington, 200 000 personnes dénoncent la guerre du Vietnam. 1990, la navette Discovery déploie le télescope Hubble en orbite à 500 km d'altitude. 25 avril, anniversaire de naissance de la chanteuse américaine Ella Fitzgerald, née en 1918, de l'acteur américain Al Pacino, né en 1940, et décès en 1995, de la danseuse et actrice Ginger Rogers, bien sûr, Fred et Ginger.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
À la une de la presse, ça brise le cœur. Des larmes et des questions, la ville reine pleure ses morts et cherche un sens à la tragédie qui l'afflige. Exclusif éducation, école vétuste, la facture explose. Pause oxygène, guide pratique, l'été ça roule, des itinéraires, des accessoires et des histoires de famille sur deux roues. De nombreux Torontois sont venus se recueillir sur les lieux du drame au lendemain de l'attaque meurtrière qui a ébranlé la ville reine. Alors que la thèse d'une attaque misogyne semblait alimentée par une publication sur Facebook du suspect, de nombreuses questions subsistaient hier sur les motifs du carnage. Sur le coup de 18 heures, un moment de recueillement initié par un groupe musulman qui se trouvait sur place a été partagé par toutes les personnes sur place, peu importe leur confession. Un quatuor à cordes arrivé sur les lieux de façon impromptue interprétait pendant ce temps la mythique pièce « Alléluia » de Leonard Cohen. Un moment de très forte émotion. Des centaines de personnes se sont succédées du matin au soir. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, et le maire de Toronto, John Tory, absent de la photo, puisque ce reportage est photographié dans la presse, se sont notamment rendus sur place malgré la pluie. On ne comptait plus les fleurs et les messages d'espoir rédigés dans toutes les langues. Quelques pâtés de maison au sud du rassemblement, des fleurs ont été déposées par terre au coin de la rue Yonge et de l'avenue Parkview. À la même heure, la veille, un corps gisait à quelques mètres de là. Résident du quartier, Jeff Shai tenait à ce que son enfant, malgré son jeune âge, assiste à la commémoration. « C'est une occasion de montrer que nous sommes forts », a dit cet homme d'origine chinoise. « La liberté n'est pas quelque chose d'acquis. C'est important de se le rappeler. » Un peu après 18 heures, les policiers ont commencé à retirer les derniers cordons jaunes délimitant le périmètre de sécurité. Piétons et automobilistes ont donc pu se réapproprier la rue Yonge sur toute sa longueur. À propos de l'identité des victimes de ce carnage à Toronto, pourquoi certains noms ont-ils été divulgués? Ce sont essentiellement les médias qui ont révélé l'identité de certaines victimes après avoir recueilli des témoignages. Tôt hier matin, le réseau CBC a affirmé qu'Anne-Marie D'Amico, employée d'une société d'investissement, était morte après avoir été fauchée par la camionnette blanche. Un représentant du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud a plus tard indiqué que deux citoyens sud-coréens était au nombre des victimes. En soirée, quelques autres noms se sont précisés. Et l'autre victime officiellement annoncée, Dorothy Sewell, 80 ans, le petit-fils de Dorothy Sewell, Elwood Delaney, a confirmé la mort de sa grand-mère sur sa page Facebook. Vétusté des écoles, la facture explose. Les écoles sont plus vétustes qu'on ne le croyait, mais on n'a encore rien vu. Un tiers des bâtiments n'ont toujours pas été inspectés en fonction d'une nouvelle grille d'évaluation mise en place par le ministère de l'Éducation. Jusqu'ici, ce nouveau processus uniformisé a fait exploser d'au moins 100 % la facture des travaux à faire pour retaper les écoles dans la moitié des 72 commissions scolaires du Québec. 3,3 milliards, le déficit de maintien d'actifs pour l'ensemble des commissions scolaires, a presque doublé en un an, passant de 1,8 à 3,3 milliards de dollars. La présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon, conteste les chiffres du ministère. « Ça ne fonctionne carrément pas », a-t-elle lancé. « On ne peut pas avoir réduit de moitié comme ça notre déficit. Vous, vous avez les chiffres du ministère qui sont passés dans une machine à saucisses. » qui exclut des travaux à faire dans des écoles dont l'état général n'est pas considéré comme mauvais. Elle chiffre les besoins en rénovation à la CSDM à 1,3 milliard. Couillard et François Legault visent tous les deux à présenter au moins 40 % de candidates aux élections de 2018, mais ils prennent du même coup leur distance par rapport à la suggestion faite par le groupe Femmes, Politique et Démocratie, qui souhaite que cette base soit inscrite comme un seuil minimal dès les élections de 2022 au cœur d'une réforme de la loi électorale. Les chefs des principaux partis étaient rassemblés hier midi à la bibliothèque de l'Assemblée nationale pour recevoir des mains de Micheline Paradis, présidente du conseil d'administration du groupe Femmes, Politique et Démocratie, un projet de loi modifiant la loi électorale pour obliger les formations politiques à présenter une liste de candidatures dans une zone de parité d'au moins 40 % de femmes et d'hommes et d'au plus 60 % de femmes et d'hommes dès les élections 2022. Cet objectif serait ensuite haussé à la hauteur de 45-55 % dès le scrutin suivant. La parité ne sera jamais acquise tant qu'une loi ne viendra pas en définir les termes d'application d'une façon durable et permanente, dit Micheline Paradis, présidente du conseil d'administration du GFPD. Très triste nouvelle, c'est comme un film d'horreur. Les proches d'une jeune femme et d'une fillette de 2 ans tuées à cette île peinent à réaliser l'ampleur du drame dans lequel ils sont plongés depuis lundi. L'auteur présumé de ce double meurtre, un homme de 24 ans de la région, fait face à 2 accusations de meurtre au second degré dans cette terrible histoire. Une ordonnance de non-publication interdit de dévoiler le nom des victimes ainsi que le lien qui les unit. C'est un chapitre qu'on a échappé. « On n'a pas vu ça venir », a fait savoir une cousine encore sous le choc qui cherche toujours à s'expliquer l'inexplicable. « Rien ne pouvait nous permettre de prévoir ça », a-t-elle dit. À cette île, les événements ébranlent tout le monde. En début de soirée, hier, des dizaines de personnes se sont rassemblées à la mémoire des 2 victimes. De nombreuses peluches et des fleurs ont été déposées sur le sol, dans un mémorial improvisé tout juste devant l'immeuble de logement de la rue Brochu, qui a été le théâtre du crime. La femme de 25 ans, originaire de la Basse-Côte-Nord, était mère de 5 enfants. Selon nos informations, la fratrie a trouvé refuge chez la famille immédiate. « Je l'ai gardée quand elle était enfant et plus tard, c'est elle qui gardait les miens. C'était une mère bienveillante qui participait et qui s'impliquait dans la vie de ses enfants », a assuré sa cousine. Des centaines de personnes ont souligné hier au Bangladesh le 5e anniversaire de l'effondrement de l'atelier de confection Rana Plaza, l'une des pires catastrophes industrielles qui avait tué au moins 1130 personnes le 24 avril 2013. Rescapés et proches des victimes ont déposé des gerbes de fleurs devant le mémorial en béton représentant la faucille et le marteau, érigé à l'emplacement de la tragédie en périphérie de la capitale Dhaka. Des cortèges syndicaux ont défilé pour réclamer le jugement des responsables de l'accident. Et une cour d'appel américaine a jugé qu'un macaque ne pouvait prétendre au droit d'auteur sur un autoportrait qu'il avait lui-même pris en déclenchant l'appareil d'un photographe dans une île indonésienne. Cette décision, rendue lundi, pourrait marquer le point final d'un litige judiciaire spectaculaire à plusieurs titres. La photo du singe est devenue l'un des selfies les plus célèbres du monde. Cette affaire a également posé un problème de droit inédit, une association de défense de la cause animale, PETA, soutenant que la capacité d'un primate à prendre une photo prouvait qu'il était un être pensant, complexe, méritant de bénéficier des règles de la propriété intellectuelle. Tout a commencé en 2011 dans l'île de Sulawesi, en Indonésie, quand un macaque noir à crête s'était emparé de l'appareil photo de David Slater et avait appuyé sur le déclencheur. Le photographe animalier britannique avait réussi à récupérer son appareil et avait publié les clichés pris par le singe baptisé Naruto.
venez d'entendre la formation Chose Sauvage avec la pièce Ariane.
Dans le devoir de ce mercredi 25 avril, négociation avec les médecins, une entente de 4 milliards avec les spécialistes, c'est deux fois plus que ce que laissaient croire les chiffres véhiculés jusqu'à présent. Toronto, des lendemains qui pleurent, les citoyens vont se recueillir et cherchent à comprendre ce déferlement de violence. Il y a une photo, beaucoup de fleurs, une femme qui se recueille près de l'endroit qui a été le théâtre de l'attaque au camion Bélier lundi. Musée des beaux-arts du Canada, la prière des héritiers de Chagall. Ne vendez pas la tour Eiffel, demande la petite fille du peintre. On a une photo, les sœurs Merritt et Bella Meyer, petite fille du peintre Marc Chagall. Lassitude infinie, Avenger, la guerre de l'infini induit un état comparable à l'indigestion cinématographique. L'UPAC restera active durant la prochaine campagne électorale et l'étonnante complicité entre Donald Trump et Emmanuel Macron. L'accord entre Québec et les médecins spécialistes vaut non pas 2 milliards de dollars, comme l'ont annoncé les médias, révèle son analyse, mais plus de 4 milliards de dollars. Pour les omnipraticiens, l'accord contient environ 3 milliards de dollars en diverses mesures. Le Devoir a pu faire ce calcul à partir des accords cadres intervenus avec les deux fédérations et a fait confirmer le tout par le Conseil du Trésor. La Fédération des médecins spécialistes a aussi confirmé l'interprétation de son accord, tout comme la Fédération des médecins omnipraticiens. Le chercheur Damien Contandriopoulos, qui est professeur à l'Université de Victoria et titulaire de la chaire de recherche politique, connaissance et santé, a analysé les accords en parallèle. Il publiait en mars une étude sur la rémunération médicale. Il affirme que l'accord cadre avec les spécialistes aura un effet nocif sur le très long terme. L'effectif médical spécialisé va être tellement grand et l'enveloppe tellement importante que cela deviendra insoluble, constate-t-il, même pour un futur gouvernement qui voudrait renégocier. C'est l'accord de 2007 pour un rattrapage avec les médecins spécialistes du reste du Canada qui a été renégocié cette année. Selon Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens, aucun argent frais n'a été investi. Les médecins spécialistes ont renoncé à des sommes totalisant 3 milliards de dollars en plus d'accepter plusieurs modalités pour améliorer l'accès aux soins pour les patients. Pendant que le flou persiste sur l'identité des victimes et les motivations du tueur, de nombreux Torontois sont venus se recueillir sur les lieux du drame pour tenter de trouver des réponses et du réconfort au lendemain de l'attaque au camion Bélier. « On est à Toronto, je roule à vélo ici, j'habite juste à côté, mais pourquoi ?» crie en sanglotant Dana Lipinski, une résidente de Willowdale, ce quartier de North York, très multiethnique, semblable à un petit centre-ville au nord de la métropole. En cette matinée nuageuse, elle est venue se recueillir sur le trottoir près d'un petit parc sur la rue Yonge, au coin de Finch Avenue, là où la fourgonnette blanche a entamé sa course folle pour foncer sur des piétons. C'est là qu'ont afflué spontanément les Torontois dans la soirée de lundi, après le drame, venant déposer des chandelles, des gerbes de fleurs et écrire des mots de soutien. « Nos prières sont avec vous. Restons forts, Willowdale. » Après, avec tout notre amour, étaient quelques-uns des messages écrits au feutre coloré, aux côtés de messages en coréen, en chinois, en arabe. Mardi, bien que le tronçon de la rue Yonge ait été fermé à la circulation sur près de 2 km presque toute la journée, ils étaient encore nombreux à venir s'y serrer les coudes. Des jeunes, des vieillards, des enfants à la sortie de l'école, certaines communautés religieuses sont venues prier sur les lieux. D'autres ouvraient les portes de leur église au Kidam. Des Torontois de toutes origines sont venus tout au long de la journée, surtout en fin de journée, déposer des fleurs. Beaucoup de fleurs, un quatuor de violon adoucit le deuil par sa musique. Je trouve ça émouvant et je suis très touchée. Je suis tellement émue de voir ça, a dit Nathan Poon. Malgré les images d'horreur qui la hantent, Margaret Ramsar a tenu à revenir sur les lieux du drame. C'est important de revenir. Je pense que je fais partie de ça. Et je sens que j'appartiens à ces gens aussi. Ça aurait pu être moi, dit-elle. Tout ça est tellement triste. La Ville de Montréal a procédé au deuxième dénombrement de sa population itinérante mardi. Pour l'occasion, quelques centaines de bénévoles sont allés à la rencontre des personnes sans-abri dans le but de collecter des données permettant de mieux connaître, comprendre et mesurer l'ampleur du phénomène. L'opération baptisée « Je compte MTL 2018 » suscite des critiques de la part d'acteurs du milieu communautaire qui estiment que ce portrait d'une journée n'est pas représentatif de l'ensemble de la situation. Les résultats seront connus dès mercredi, aujourd'hui. On avait compté 3016 personnes en situation d'itinérance à Montréal lors du premier dénombrement en 2014. Alexandre Bissonnette a décidé de s'en prendre à une mosquée à cause de la couleur du temps, a fait valoir mardi un psychiatre au tribunal. À une autre époque, il aurait ciblé les Juifs. Les préjugés qui circulent sur les musulmans ont fourni au tueur une justification pour atteindre l'objectif de sa quête, a fait valoir le psychiatre légiste Sylvain Fauché dans son rapport et son témoignage. M. Fauché a par ailleurs affirmé qu'une réhabilitation de M. Bissonnette était possible. Un point de vue déjà défendu la veille par son collègue psychologue Marc-André Lamontagne. L'expert s'est toutefois montré prudent et a insisté sur le travail que Bissonnette allait d'abord devoir faire sur lui-même. Le risque de récidive n'est pas particulièrement significatif, a-t-il écrit, avant d'ajouter qu'il n'était pas faible pour autant. La Couronne a demandé à faire voir le meurtrier par un autre expert, le psychiatre Gilles Chamberlain de l'Institut Pinel, Philippe Pinel. Ce dernier doit rencontrer Bissonnette mercredi après-midi et présenter son rapport jeudi. Terroriste désespéré, tueur fou, les dénominatifs s'entremêlent pour décrire l'homme derrière l'attaque au camion Bélier qui a coûté la vie à 10 personnes et en a blessé 14 autres à Toronto. Les frontières entre le terrorisme et les tueries de masse se brouillent de plus en plus, affirment plusieurs chercheurs, rendant difficile la prévention de tels gestes violents et radicaux. Tous les experts consultés s'entendent pour dire que l'auteur présumé de l'attaque menée dans la ville reine ne correspond pas à la définition convenue du terroriste, mais qu'il s'inscrit dans une mouvance de plus en plus fréquente, celle d'individus troublés mentalement qui adoptent et imitent les méthodes de prédilection des groupes terroristes, mais sans être mu par une idéologie. Après avoir été le dirigeant d'Uber au Québec pendant plus de 4 ans, Jean-Nicolas Guilmette a décidé de quitter ses fonctions au sein de la multinationale en invoquant des raisons familiales. Père de 3 jeunes enfants, l'homme de 35 ans a indiqué mardi par l'entremise d'une déclaration vouloir consacrer les prochains mois à son rôle de père et retrouver sa famille. M. Guillemette a été une figure très médiatisée dans le cadre du débat ayant mené à l'implantation d'un projet pilote au Québec, ce qui a permis à la controversée multinationale de poursuivre ses activités dans la province. Dorénavant, les activités quotidiennes d'Uber au Québec seront dirigées par Virender Kunhale, l'actuel bras droit de M. Guillemette. Pour sa part, Jean-Christophe Delarue deviendra le porte-parole québécois de la multinationale, en plus d'être responsable des relations gouvernementales. Et les États-Unis ont signalé leur désir de conclure un nouvel accord de libre-échange nord-américain, ALENA, avant une date limite législative au début du mois prochain. On se retrouve après la pause et la chanson avec la revue de presse du Journal de Montréal.
Voix.com.
Retour en 1989 avec le duo Blues Trottoir, un soir de pluie.
En une du Journal de Montréal, tuerie de Toronto, visait-il les femmes? Cours d'éducation sexuelle, des parents utilisent leurs enfants pour protester. Drogue, 63 Hells et sympathisants arrêtés. Et sport, des honneurs pour Andriy Markov. Alex Minassian a comparu hier faisant face à 10 chefs d'accusation de meurtre prémédité et de 13 pour tentative de meurtre. La police a indiqué qu'une 14e accusation allait s'ajouter éventuellement. Les autorités se sont toutefois gardées d'établir un lien direct entre le sexe des victimes et les motifs du suspect. Toutes les victimes sont des adultes âgés de la mi-vingtaine à plus de 80 ans. Les identités des victimes de l'attaque ne devraient pas être dévoilées d'ici quelques jours, a estimé le coroner en chef de l'Ontario, Dirk Hoyer. L'enquête devrait également s'échelonner sur plusieurs semaines. Un ancien camarade de classe de Mina Sian le décrit comme un être dérangé qui ouvrait sa chemise et se crachait dessus en pleine classe. Harry Blaff, 24 ans, s'est rappelé que Mina Sian répétait régulièrement « J'ai peur des filles ». Il y a des années, dans les couloirs de la Thornia Secondary School à Thornhill, en banlieue de Toronto. C'était presque comme un slogan ou un tic à confier au journal Toronto Sun, Harry Blaff. Il était généralement seul, je ne pense pas qu'il avait beaucoup d'amis, ajoutant qu'il ne se souvient pas de lui comme de quelqu'un de violent. Le jeune homme de 23 ans était membre de l'armée durant 2 mois, soit du 23 août au 25 octobre 2017, ont fait savoir les forces armées canadiennes dans un communiqué. Mina Sian a suivi sa formation à l'école de leadership et de recrue des forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. Il n'a pas terminé sa formation de recrue et a demandé à être libéré volontairement des forces après 16 jours. Pour des raisons de confidentialité, les forces armées canadiennes ne commenteront pas davantage sur le service dans l'armée, de Mina Sian a précisé leur porte-parole Andrew McKilvey. Juste pour terminer cette nouvelle, tout juste avant d'accomplir son sombre dessein, le suspect de l'assaut sur la rue Yonge a publié sur Facebook un message confus appelant à une rébellion incel, un mouvement masculiniste et misogyne très présent sur Internet. Ferrandaise perd les pédales et se dit victime de salissage. Le maire du Plateau s'est assoupi 2 fois lors d'un conseil municipal lundi. Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandaise, s'est défendu et a accusé les médias de ternir sa réputation alors qu'il semblait somnoler lundi soir lors de la période de questions des citoyens au conseil municipal. « Je suis sans doute l'un des élus qui travaille le plus fort, qui a le plus de responsabilités et qui est le plus présent à la fois dans les médias et à l'hôtel de ville », a expliqué M. Ferrandaise. On a le droit de fermer les yeux pendant un conseil qui dure 6 heures alors qu'on dort 4 heures par nuit. Lorsqu'il a été abordé par les journalistes en marge du conseil municipal de Montréal hier, M. Ferrandaise s'en est pris directement aux médias de Québécois, dont 24 heures et TVA Nouvelles. « Toi, je ne te parle plus », a-t-il lancé aux journalistes de TVA Nouvelles. « Tu fais partie d'un groupe qui fait du salissage, c'est de la persécution ». L'attaché de presse du comité exécutif, Youssef Aman, a par la suite assuré qu'aucun média ne serait boycotté par les élus, incluant Luc Ferrandaise. Levée de bouclier contre le cours d'éducation sexuelle. Des dizaines de parents de la région de Montréal ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école lundi afin de protester contre le futur cours d'éducation à la sexualité. Certains critiquent son manque de clarté, d'autres son aspect supposément pornographique. C'est trop vulgaire pour de jeunes enfants, trop explicite, explique Omar, père de 2 enfants de 6 et 10 ans, qui ne sont pas allés à l'école lundi. L'homme qui préfère taire son nom de famille en a contre le programme d'éducation à la sexualité qui sera implanté dans tous les établissements du Québec dès l'automne prochain. Omar a décidé d'embarquer dans un mouvement qui s'intitule « Sex Ed Sit Out », qui a consisté à retirer les enfants de l'école le temps d'une journée, soit le 23 avril, en envoyant une note à l'école pour montrer son désaccord. « trois réseaux des Hells démantelés, la police s'est attaquée à la principale source de revenus des Hells Angels hier en démantelant trois des plus gros réseaux de distribution de stupéfiants au Québec qui généraient un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 millions par année. On frappe où ça fait mal. Nous venons de créer un vide qui déstabilise leur source de revenus, a indiqué le porte-parole de l'Escouade nationale de répression du crime organisé, Guy Lapointe, en conférence de presse. Le Parti libéral du Québec soutient ne pas avoir été avisé en 2014 des agissements du député Yves Saint-Denis, selon le premier ministre Philippe Couillard. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'en 2014, la situation n'a pas été divulguée comme certains l'ont mentionné. C'est ce qui est mentionné au parti, a assuré le chef libéral hier. M. Couillard a demandé des vérifications au PLQ la semaine dernière, après que Cogeco Nouvelle eut révélé qu'Yves Saint-Denis, alors candidat libéral, a envoyé à un employé politique en 2014 une photo montrant un homme recevant une fellation. M. Saint-Denis assure qu'il s'agissait d'une capture d'écran d'un film pornographique. Le député a quitté le caucus libéral depuis. Plusieurs parents réunis hier soir en mémoire de la petite Rosalie Gagnon ont profité de ce moment fort émouvant pour dire à leurs enfants à quel point ils les aiment. La marche silencieuse a rassemblé quelques centaines de personnes dans les rues de Charlebourg. Environ 500 citoyens touchés par le drame se sont présentés vers 19 heures devant la résidence où le corps a été retrouvé mercredi dernier. À de nombreuses reprises, les larmes ont coulé parmi les familles. « Allons marcher pour Rosalie », a simplement lancé l'organisatrice Amélie Tremblay, avant d'entamer un trajet d'un peu plus de 2 km. Le groupe a fait une pause symbolique au parc Terrasse Bonheur, où la poussette a été retrouvée la semaine dernière. Selon la police de Québec, Audrey Gagnon est la seule suspecte relativement à la mort de son enfant. Et pour terminer, les microplastiques s'accumulent de façon inquiétante dans la banquise de l'Arctique, source potentielle de pollution importante alors que la glace commence à fondre sous l'effet du réchauffement climatique, met en garde une étude publiée hier. Emballages alimentaires, nylon issu de tissus synthétiques, filtres de cigarettes ou filets de pêche, une équipe de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine a trouvé 17 types de plastique dans des échantillons de glace récoltés lors de trois expéditions arctiques en 2014 et 2015. Ces découvertes indiquent que les microplastiques sont maintenant omniprésents sur les eaux de surface des océans, a souligné Jeremy Wilkinson, spécialiste de la banquise du British Antarctic Survey. 8,8 millions de tonnes de plastique rejoignent les océans chaque année, comme si un camion Ben y déversait son chargement chaque minute.
choses déchues qu'on appelle l'espoir disparaît tranquillement dans le noir. Quand le bleu du ciel sera voilé, que le soleil ne pourra plus percer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai, rendors-toi. Rendors-toi, c'est pas encore la fin du monde, pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Si les pleurs sur les joues ont coulé et le temps plus rien ne peut changer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi, ce n'est pas encore la fin du monde, pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera.
C'était Alpha Rococo avec la pièce « Les jours de pluie ».
Régionaux, la chronique de Patrick Duquette dans le droit, intitulée « La maison des sourds ». Dis-moi, Michel, ça fera une différence dans ta vie, cette nouvelle maison des sourds à Gatineau? Dès que l'interprète lui a traduit ma question en langue des signes, Michel Portelance s'est mis à gesticuler à toute vitesse. Je n'ai pas eu besoin de l'interprète pour comprendre sa réponse. Ses gestes disaient tout. Si ça fera une différence, mets-en. Alors voilà. Gatineau aura sa maison des sourds, la deuxième au Québec après celle de la rue Crémazie à Montréal. La version gatinoise s'inspire d'ailleurs de sa consœur montréalaise. Le bâtiment de 5,3 millions comprendra 18 logements abordables équipés d'alarmes lumineuses et de caméras. Des services pour les malentendants y seront apportés demain puisque l'association de Louis de l'Outaouais, ADOO, A-D-O-O, s'installera au sous-sol. La construction a déjà débuté sur un terrain acquis à cette fin sur la rue du Sommet, dans le secteur des Hautes Plaines. Pour Michel, sourd de naissance, incapable de lire sur les lèvres et pour qui lire ou écrire relève de l'exploit, l'apparition de cette maison des sourds à Gatineau est une bénédiction. La perspective d'y aménager se compare presque à obtenir une place au paradis. J'exagère, mais à peine. La liste d'attente comprend déjà 34 noms, soit deux fois plus que le nombre de logements disponibles. On a remarqué, voilà quelques années, qu'il manquait de logements adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes, explique Jean-Pierre Brindamour, un bénévole impliqué de près dans ce projet avec l'ADOU. Beaucoup de personnes sourdes ont des difficultés financières et sont isolées au sein même de leur communauté. On a été voir ce qui s'était fait à Montréal et est né ce projet pour leur procurer un environnement sécuritaire et agréable. Il a toutefois fallu convaincre bien du monde pour en arriver à une première pelletée de terre. La surdité a beau être vieille comme le monde, elle fait l'objet de préjugés tenaces. C'est un handicap invisible, contrairement à quelqu'un qui se promène en fauteuil roulant ou avec une canne, avance M. Brindamour. Michel ne compte plus les fois où il s'est fait regarder de travers parce qu'il mettait du temps à se faire comprendre d'un employé au guichet ou d'un serveur au restaurant. À la clinique, il a dû attendre une heure de plus parce qu'il a manqué le moment où son nom a été appelé à l'interphone. Pour eux, c'est une frustration quotidienne, explique Brenda Rocha, directrice de l'ADOU. Je suis mexicaine et je sais ce que peut représenter la barrière de la langue quand on arrive dans un nouveau pays. Imaginez ce que c'est d'être dans votre propre pays et d'avoir néanmoins toujours besoin de quelqu'un pour vous aider à communiquer avec les autres. Le financement demeure toutefois un défi. Le temps perdu depuis 4 ans à résoudre des embûches a fait augmenter les coûts à 5,3 millions au-delà des prévisions. La Société de l'habitation du Québec et la Ville de Gatineau couvriront 30 % de la facture. L'ADOU doit assumer presque tout le reste, dont une hypothèque de 700 000 $. Une somme considérable pour un organisme qui ne roule pas sur l'or. « Oui, nous sommes audacieux. Il faut croire en ses rêves », dit M. Brindamour. En attendant, Michel vit d'espérance. Cette maison des sourds, c'est l'espoir de s'arracher à une vie frustrante. Lui qui vit de l'aide sociale et doit compter sur sa sœur pour se faire comprendre de son propriétaire, d'un serveur au restaurant ou d'un médecin. Dans le petit local où se déroule notre entrevue est affiché un schéma de la maison des sourds. D'un doigt frénétique, Michel me pointe un logement avec balcon à l'étage du joli édifice. Je n'ai pas eu besoin de l'interprète pour comprendre. C'est ce logement que Michel convoite une fois l'immeuble achevé, l'automne prochain. Je lève le pouce pour lui signifier que j'ai compris. Michel comprend que j'ai compris et lève le pouce à son tour. Comme quoi, il y a toujours moyen de se comprendre entre gens de bonne volonté. Dans le Nouvelliste, faute de financement, la corderie ferme ses portes. L'organisme trifluvien, la corderie, est forcé de fermer ses portes en raison d'un manque important de financement pour ses opérations. L'organisme, qui œuvrait depuis plus de 10 ans à Trois-Rivières, a fait connaître sa décision tard, lundi soir, après que son conseil d'administration en soit arrivé à cette difficile conclusion. La corderie travaillait à la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et comptait plus de 400 membres, dont 60 % vivaient seuls et 60 % étaient en situation de pauvreté. L'organisme permettait aux membres de se rendre des services selon leurs besoins, en utilisant la ressource du temps comme monnaie sociale, en plus d'organiser des activités pour briser l'isolement et créer des liens sociaux. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Depuis 2 ans, nous avons exploré toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Nous avons tenté de remuer ciel et terre, notamment en organisant des campagnes d'autofinancement. Mais ce n'est pas assez. Un organisme comme le nôtre a besoin d'un financement récurrent pour pouvoir fonctionner, constate la coordonnatrice de la ressource, Josiane Malenfant-Tremblay. Dans les dernières années, les appels de projets gouvernementaux permettant à la corderie de recevoir du financement pour des projets spécifiques sont allés en diminuant. Par ailleurs, les recherches de financement récurrents auprès des différents ministères par le réseau Accorderie, qui compte 14 chapitres au Québec, sont demeurées vaines. Aujourd'hui, l'Accorderie s'est retrouvée devant une absence totale de financement, ce que le conseil d'administration a déploré, tout en soulignant les efforts consacrés dans les dernières années pour faire connaître et reconnaître l'organisme. Nous faisons de la mixité sociale. Nous n'avons pas nécessairement un créneau particulier. C'est un facteur qui a pu jouer, mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Au manque de financement, explique Mme Malenfant-Tremblay, qui précise qu'une accorderie est d'abord une franchise pour laquelle chaque organisation doit payer 4 000 pour faire partie du réseau. C'est une dépense de base qui est récurrente. Pour le moment, les activités de l'organisme se poursuivent jusqu'au 31 mai, date de la fin du bail. Par la suite, les échanges de services pourraient se poursuivre, mais la structure ne sera plus gérée à Trois-Rivières. Les membres, entre eux, peuvent continuer. C'est à eux de décider s'ils veulent demeurer accordeurs. Une exclusivité dans la tribune, l'exposition nocturne à la lumière bleue pourrait être associée à un risque accru de souffrir d'un cancer du sein ou de la prostate, montre une étude internationale à laquelle a participé le professeur de physique Martin Aubé du Cégep de Sherbrooke. C'est une chronique d'Isabelle Pillon. Les participants de l'enquête des zones plus exposées à Madrid et Barcelone avaient 1,5 fois plus de risque de souffrir du cancer du sein et 2 fois plus de risque d'être atteint d'un cancer de la prostate. Aux yeux de M. Aubé, ces résultats doivent alerter la santé publique et inciter les autorités à poursuivre les recherches. On a assez d'informations pour dire que c'est un problème de santé publique, qu'il faut faire de la prévention et agir, commente M. Aubé, co-auteur de l'étude. Celle-ci a été menée par une équipe internationale sous la direction de l'Institut pour la santé mondiale de Barcelone, IS Global. Les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Health Perspective. Les résultats sont d'autant plus préoccupants que l'étude s'est intéressée à l'exposition nocturne à la lumière dans les villes, soit l'éclairage artificiel extérieur. Elle ne tient pas compte, par exemple, de la lumière bleue qui provient des écrans de tablettes et de téléphones portables. Si on décompose une lumière, on retrouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dont la lumière bleue. Elle est notamment émise par la majorité des DEL blanches. Martin Aubé s'attendait à voir un lien, mais pas de façon aussi importante. On ne s'attendait pas à ça, honnêtement. On a vérifié et revérifié, c'est un résultat tellement fracassant. Même si l'étude montre une forte corrélation entre les deux, on ne peut pas parler de preuves hors de tout doute. Le chercheur espère que ces résultats stimuleront la recherche. Son équipe et lui ne connaissent pas, par exemple, quel est le mécanisme qui pourrait entraîner cette association. Le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé le travail de nuit comme cancérogène probable chez l'homme. Il existe des preuves de l'existence d'une relation entre le travail de nuit sous un éclairage artificiel qui implique une perturbation du rythme circadien et les cancers du sein et de la prostate. Dans notre étude, nous voulions savoir si l'exposition nocturne à la lumière dans les villes pouvait aussi avoir une influence sur l'apparition de ces deux types de cancers, indique Manoulis Koujivinos, chercheur d'IIS Global et coordonnateur de l'étude dans un communiqué. La lumière bleue est entre autres montrée du doigt parce qu'elle favoriserait la suppression de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Merci d'écouter Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à la radio de Canal M de Vues et Voix. Restez avec nous, les actualités culturelles dans un moment et les sujets libres.
The stars to our pearl. We laugh with
Nouveauté de la chanteuse Stéphane Moraes, c'était la pièce Supernova.
Mettre au calendrier jazz, théâtre et musique classique à l'honneur, une année avec Cooder, Lepage, Jane, Gainsbourg ou Officer est forcément une bonne année pour le jazz. Plus que jamais, le Festival international de jazz de Montréal, FIJM, sera affaire de nids, de niche, de genre et de goût pour cette 39e édition qui ira du 28 juin au 7 juillet. Certains iront pour le vétéran des musiques enracinées, Ry Cooder, d'autres du côté du nouveau spectacle de Jordan Officer, notre virtuose de la note essentielle, ou les René Lucier Quintet et Marc Ribot, peut-être, Ben Harper avec Charlie Musselwhite, ce sera du blues pour vrai. George Thorogood, ça va faire du bruit. Le projet Slave de Robert Lepage avec Ex Machina et Betty Bonifaci occupera le TNM pendant 3 semaines. Êtes-vous plus prog, psy, prog, il y aura Soft Machine et l'éternel Jan Anderson pour les 50 ans de Jethro Tull. Êtes-vous pop, pop, pop? Vous bondirez avec Jane, la sensationnelle jeune française. Voyagerez avec Kimbra, exulterez avec Metronomy. Êtes-vous chanteuse, chanteur? Holly Cole revient, Didi Bridgewater et Mélanie Di Biasio, Itou. Entre autres, Seal, Bobby McFerrin, Buzz Sags. On avoue un parti pris pour Beth Hart, Mélissa Laveau, Charlotte Gainsbourg et notre exquise Berries. C'est un texte de Sylvain Cormier dans Le Devoir d'aujourd'hui. Il y en a aussi du jazz pour les purs, les durs, les plus ou moins purs et les plus ou moins durs du genre au-delà des champions consacrés. Retour d'Aldé Miola, Brian Blade, Terence Blanchard et compagnie. On notera l'événementiel spectacle de Carla Bley avec l'Orchestre national de jazz de Montréal, ainsi que les multiples propositions du Dr. Lonnie Smith, de John Medivsky et de Mark Gugliana. Je vous en ai glissé un mot hier, mais maintenant on a tous les titres de la nouvelle programmation au Rideau Vert. Sa saison 2018-2019, la directrice artistique du Rideau Vert, Denise Filiatro, l'a voulu résolument féminine avec seulement des femmes à la mise en scène. On la voit ici, donc une photo dans Le Devoir, en compagnie des 4 complices qu'elle s'est choisie pour donner à sa 70e saison cette twist inédite, qui marque aussi une première pour le théâtre de la rue Saint-Denis. D'entrée de jeu, ce billet s'imprimera fortement avec Les Fées ont soif de Denise Boucher, pièce coup de gueule à laquelle va s'attaquer Sophie Clément. Cette dernière était de la création il y a 40 ans. En novembre, ce sera au tour de Nathalie Lecomte de tenir les rênes de la proverbiale revue de l'année 2018, revue et corrigée. Janvier verra la baguette tendue à Marie-France Lambert qui mettra en scène Art, A-R-T, une comédie grinçante sur l'amitié masculine signée Yasmina Reza. C'est une autre actrice qui reprendra le flambeau en mars. Marie-Thérèse Fortin dirigera en effet l'éducation de Rita. La reine des Céans, Denise Filiatro, s'est réservée la clôture de la saison avec le Spunz, adapté du scénario de Pagnol, une satire qui pose un regard touchant sur le métier d'acteur. Alors que les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey battent leur plein sous la Sainte-Flanelle, Radio-Canada verse ce mercredi matin sur TouTV sa nouvelle série dramatique « Demain des hommes ». Et la production socio-sportive réussit de belle manière à s'enraciner dans le quotidien d'adolescents poussés par un rêve, sans évacuer du portrait la famille, la communauté, voire les enjeux du Québec loin des grands centres. C'est Philippe Papineau dans Le Devoir qui signe l'article intitulé « Demain des hommes », le hockey comme prétexte. La série, composée de 10 épisodes d'une heure, est écrite par Guillaume Vigneault et réalisée par Yves-Christian Fournier, derrière « Tout est parfait » et « Noir ». Les médias ont pu écouter 3 chapitres mardi et l'histoire évitait jusque-là beaucoup des pièges des séries sportives, en plus de nous accrocher aussi efficacement qu'aurait pu le faire un joueur d'hockey des années 90. Alors voilà le duel entre le vétéran entraîneur-chef, incarné par Normand Damour, et son nouvel assistant, Émile Procloutier, s'avère savoureux. Vieux dinosaure contre jeune psychologue, la guerre reste à finir. Émile Procloutier, étonnant d'aisance dans cet univers, semble d'ailleurs être au centre de plusieurs filons de Demain des hommes. Celui de sa propre famille, mais aussi celui de l'équipe et de la petite ville où les partisans semblent bien aimer jouer au gérant d'estrade. Presse, portrait Augustin Adeliche au sommet de la montagne. C'est Mario Girard qui a écrit le texte. Si vous avez toujours voulu savoir comment pouvait se dérouler la rencontre entre un orchestre symphonique et un soliste venu d'ailleurs, dites-vous que tout passe essentiellement par la musique. J'ai assisté plus tôt cette semaine à la répétition qui réunissait le violoniste, Augustin Adeliche, et l'Orchestre symphonique de Montréal en vue du concert présenté ce soir dans le cadre du Festival nordique. Après avoir joué dimanche soir à Manchester, en Angleterre, Adeliche a posé le pied à Montréal lundi vers 15 h. 2 heures plus tard, son Stradivarius sous le bras, il se pointait sur la scène de la Maison symphonique en compagnie du chef invité John Storgard. Ce dernier a brièvement présenté le virtuose aux musiciens qui ont exprimé leur joie en tapant du pied. Le chef a levé les bras et tout ce beau monde a plongé illico dans le sublime concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. Le langage du quatrième art faisait son œuvre. Immédiatement après la première grande envolée du soliste, l'orchestre a fait entendre le célèbre thème du concerto, le seul que le compositeur russe ait composé pour le violon. Augustin Adeliche a alors savouré cet instant en souriant. Installé avec lui dans un salon après la répétition, je lui ai d'abord demandé si ce moment était pour lui la première occasion de vérifier la richesse de l'orchestre. En fait, dès les premières secondes, je peux voir ce dont un orchestre est capable. Pour être franc, je souris toujours durant ce passage. Il me procure le sentiment d'être arrivé au sommet de la montagne. C'est comme si j'étais en haut d'une montagne et que le vent entrait dans mes cheveux. Celui que le magazine Musical America a récemment sacré instrumentiste de l'année, remplace la violoniste Hilary Hahn qui, enceinte de son deuxième enfant, a dû annuler sa présence à Montréal. On a pensé à Augustin Adeliche qui a une longue histoire avec ce concerto pour violon considéré par plusieurs comme étant le plus difficile du monde. Fait à noter, ce n'est pas la première fois que Adeliche et Storgard, le chef d'origine finlandaise au pupitre ce soir, sont réunis autour de cette œuvre. Nous avons présenté ce concerto tous les deux il y a 2 ans à Vancouver, raconte Augustin Adeliche. Je dois dire que ma présence à Montréal n'a pas été facile à insérer dans mon calendrier, mais j'avais très envie de venir dans le cadre de cet événement spécial. Vu comme l'un des plus grands musiciens de sa génération, Augustin Adeliche a choisi de vivre à New York il y a 14 ans après des études à la Juilliard School. Il s'empresse de préciser qu'il a fait sa formation en même temps qu'Andrew Wan, violon solo de l'OSM. Les violonistes semblaient d'ailleurs très heureux de se retrouver après la répétition de lundi. Né en Allemagne, Augustin a passé le plus clair de son temps, de son enfance, en Italie. Son père musicien lui enseignait dès l'âge de 5 ans les rudiments du violon. Le garçon a rapidement montré des aptitudes. Mais un accident, survenu quand il avait 15 ans, est venu freiner l'élan du jeune virtuose. L'incendie d'un tracteur dans le vignoble que possèdent ses parents a brûlé le visage et le haut du corps de l'adolescent. Quant à ses bras, ils ont perdu de leur agilité et de leur souplesse. Plusieurs greffes cutanées ont été nécessaires. Quand j'aborde cette difficile période de sa vie, les yeux d'Augustin Adelich s'embuent. Quand j'ai recommencé à rejouer du violon un an après l'accident, mes doigts se souvenaient de ce qu'ils devaient faire, mais j'ai réalisé que je devais travailler très fort pour les aider. Au bout de 3 ans de travail, j'ai repris confiance. Cette expérience m'a permis de remettre les choses en perspective. Cela m'a permis de voir quelle place prenait la musique dans ma vie et quelles étaient mes véritables valeurs. Je lui demande s'il croit être un combattant. Il est gêné par ma question et l'esquive. Je récidive en lui disant qu'il est sans nul doute une grande source d'inspiration pour beaucoup de jeunes qui connaissent une épreuve difficile à l'adolescence. Vous croyez vraiment? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Je sais tout simplement qu'après cet accident, j'ai voulu rapidement m'en sortir. J'ai réalisé que perdre lors d'une compétition ou d'un concours, ce n'était vraiment pas grave. Il est clair que je suis ressorti de cette expérience beaucoup plus fort. Augustin Adelich vient d'avoir 34 ans. Il multiplie les voyages pour jouer sur toutes les scènes du monde. Son répertoire est vaste. Quant aux prix et aux honneurs qu'il a remportés, on ne les compte plus. Serait-il en train de vivre la plus belle période de sa vie? Je crois que je pourrais mieux vous décrire ce que je vis en ce moment dans une dizaine d'années. Chose certaine, la différence entre le musicien que je suis aujourd'hui et celui que j'étais à 20 ans, c'est l'expérience. Cette expérience est basée sur les œuvres que j'ai interprétées, mais aussi sur les chefs que j'ai rencontrés. La première fois qu'Augustin Adelich a commencé à travailler le concerto en ré majeur de Tchaïkovski, il avait 8 ans. Et la première fois qu'il l'a interprété, il en avait 13. C'est ça qui est merveilleux. Quand on est musicien, on peut interpréter la même œuvre plusieurs fois dans une vie, et chaque fois, l'expérience est différente. Je ne me lasse pas d'interpréter ce concerto.
Certains soirs, tu t'ennuies trop, regarde dans le ciel, tu pourras voir comme une lumière qui avance lentement. D'abord, on croit en une étoile, c'en est pas une, c'est moi dans un Spoutnik. Si tu penses que c'est trop petit pour un comme moi et mon gabarit, faut dire ce n'est pas mon corps qui voyage. Moi je suis dans mon lit, mais mon esprit lui est dans un Spoutnik. Six milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne, mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce que j'y cherche. Tout simplement, juste un endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Pose là mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures, mais qui retourneront là d'où ils viennent, plus forts, plus vrais, à demi invincibles. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. Seul ensemble.
Daniel Bélanger qui nous rappelait qu'en 2002, nous étions 6 milliards depuis la population mondiale a franchi le cap des 7 milliards et demi de population. C'était donc la pièce Dans un Spoutnik.
Et un ajout à ce que je vous ai lu à propos du musicien violoniste Augustin Adelich, il est en concert ce soir à la Maison Symphonique. Santé publique, Francine Pelletier, son article ou sa chronique s'intitule « Le bon, le mauvais et le plastique ». Véritable plaie des temps modernes, le plastique a complètement envahi la planète depuis 60 ans. De la calotte polaire jusqu'à nos propres cellules, rappelait Le Devoir samedi dernier. On parle ici d'un fléau équivalent au changement climatique pour la survie humaine. Il s'agit, après tout, de produits chimiques dérivés du pétrole qui, de plus, ne se décomposent pas en plein air et qu'on ne réussit guère à recycler. 9% seulement. À l'échelle planétaire. Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne maintenant. Le plastique faisant désormais partie de nos corps, l'urine ou le sang de 91% des Canadiens de 7 à 79 ans contient une de ses composantes toxiques, le BPA. Pardon. Il s'agit donc non seulement d'un problème environnemental, mais également de santé. Pourquoi s'en réjouir? Parce que les problèmes environnementaux, à juger du peu que font nos gouvernements à cet égard, on s'en balance, alors que les problèmes de santé, on s'en occupe la plupart du temps. La santé se retrouve d'ailleurs toujours en haut de liste lorsqu'on sonde la population canadienne sur ses priorités. L'environnement est toujours loin derrière. Comme le dit l'auteur de Slow Death by Rubber Duck, Rick Smith, une fois qu'une question devient une préoccupation de santé publique, elle est beaucoup plus susceptible d'être remarquée par les gens, reprise par nos élus et par conséquent résolue. L'auteur et PDG de l'Institut Broadband rappelle qu'on s'est réellement préoccupé de la cigarette une fois que la question de la fumée secondaire a réussi à attirer l'attention. À partir du moment où il s'agissait d'un problème de santé plus large, pas seulement celui du fumeur individuel, le besoin de changer les normes est devenu incontournable pour les compagnies de tabac, même les plus récalcitrantes, dit-il. Comment le plastique affecte-t-il votre santé? En imitant l'estrogène, une hormone féminine, le bisphénol A, BPA, peut dérégler le système endocrinien. Tout indique d'ailleurs qu'il s'agit d'un facteur important dans les problèmes de fertilité très répandus aujourd'hui. Au Canada, l'infertilité a triplé en 15 ans, passant d'un taux de 5,4 % en 1984 à 15,7 % en 2011. Elle grimpe jusqu'à 20,7% chez les couples dont les femmes ont de 40 à 44 ans. Mais c'est la fertilité des hommes qui, en fait, inquiète le plus. Le taux de sperme des hommes occidentaux a chuté de façon marquée de 1973 à 2011, passant de 99 millions par millilitre à 47,1 millions, une baisse de 52 %. En bas de 40 millions par millilitre, la reproduction humaine s'avère improbable. Le nombre de spermatozoïdes, c'est le canari dans la mine, dit l'ex-épidémiologiste en chef des forces armées israéliennes, Agal Levin, et auteur d'une étude sur le sujet. Il y a quelque chose de déréglé dans l'environnement, conclut-il. Bien que d'autres facteurs impactent également la fertilité, le tabagisme et l'obésité notamment, une telle dégringolade aussi largement répandue indique un facteur extérieur et relativement nouveau. Le futur de la reproduction humaine est en jeu ici, comme le rappelle le Dr Levin, et pourtant, plutôt que de s'atteler à restreindre l'utilisation de produits plastifiés, comme vient de le faire la Grande-Bretagne en interdisant les produits de plastique à usage unique, nous avons droit, encore une fois, aux propos lénifiants du Premier ministre Trudeau. Nous sommes conscients du défi considérable pour les océans, sans s'engager dans des actions immédiates pour autant. Comble de l'absurdité, plutôt que de s'attaquer à l'omniprésence du plastique, on s'apprête plutôt à revoir la législation concernant les mères porteuses. Fort de l'appui de couples gays ou infertiles, le député fédéral Anthony Hausfather déposera bientôt un projet de loi pour permettre aux femmes de louer leur ventre en échange d'argent, ce que la loi a toujours interdit jusqu'à maintenant. Une proposition aberrante, disons-le, qui ouvre la porte non seulement à l'exploitation de femmes démunies, mais aussi la perversion de la notion même de maternité comme celle d'ailleurs de l'héritage biologique. Cette façon de chercher midi à 14 heures est malheureusement typique de l'attitude qui prévaut en matière d'environnement. Plutôt que d'inciter la population à changer ses habitudes de vie, comme le gros bon sens nous y convie, nos gouvernements s'en remettent plutôt aux dieux de la technologie, peu importe les risques, les coûts ou, dans le cas qui nous occupe, le manque flagrant d'éthique. Cherchez l'erreur. C'est déjà tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 25 avril 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été avec nous et j'espère que vous allez être des nôtres puisque dans un petit moment, j'anime les paractualités. Alors restez là. Puis un grand merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.